RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'After est là. William Gallas avec nous ce soir, David Lorto, notre spécialiste du foot allemand, et Daniel Riolo, évidemment. Tout à l'heure, on fera une évaluation complète du match, joueur par joueur, concernant notamment l'équipe de France. Et avant d'accueillir William, j'aimerais quand même vous lire quelques messages sur Direct Studio, parce que vous avez contrarié quelques-uns de nos auditeurs, les gars. Nico, par exemple, qui dit « Mais arrêtez avec votre histoire. Simeone, quand il fait la même chose avec l'Atlético, on dit que c'est génial. Voilà, hormis l'Espagne, quelle sélection aujourd'hui est un régal à regarder ?» demande Nico.
Ben Nico, il a rien compris. Il faut qu'il écoute. Il peut réécouter pendant la prochaine pub le morceau. On a dit tout le contraire. On a dit qu'on arrêtait justement, qu'il fallait arrêter de parler de ça.
Et puis Pierre nous dit « Les gars, vous êtes chiants. Moi, ce soir, j'ai kiffé. J'ai pris mon pied avec une équipe de France qui a enfin une identité. Une équipe soutenue par un public qui donne envie de la soutenir. On sent qu'elle donnera tout pour revenir dans le match et on finit par gagner. Moi, j'aime bien. » Voilà ce que dit. Voilà ce que dit Pierre.
Cela dit, les drapeaux étaient plus agités à 2-1 qu'à 0-1 quand même. Hein.
Dans le stade. Ça, oui, bon, ça c'est normal.
T'as toujours été comme ça, de hein, toute façon.
Oui. Oui,
bon, aucune aigreur. Hashtag aucune aigreur.
T'as kiffé ton petit 1-0, toi.
Oui, mais bien sûr.
Bon, là, c'est pour ça.
Donc, à 1-0, il s'était vu bien. D'ailleurs. En plus, il y a eu un petit fait de jeu favorable, quand même, aussi.
Les réactions
Les bleus, on prend.
Les réactions des médias ce soir,
c'est. Le péno sur Matuidi. Tu prends, quoi.
Oui, enfin, c'est le péno sur Matuidi, faut voir, parce que Hummels, je lui prends le bras. Alors, c'est peut-être pour ça que l'arbitre cite, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que.
Mais bon.
C'est vrai que c'est gentil,
écoute,
quoi. C'est gentil.
Sûr, je suis pas sûr.
Ah, oui.
Mais bon, il y avait péno sur Mbappé, peut-être en première mi-temps aussi.
Oui, non, mais de toute façon, il n'y avait pas le VAR ce soir.
Non.
Bon, quand il n'y a pas le VAR, on respecte l'arbitre.
Il y a Joël Kenyou qui a dit qu'il n'y avait pas péno.
On respecte toujours l'arbitre. William est là, au 32-16. Salut William.
Quand il y a le VAR,
oui.
Allô.
Les Français savent bien s'en servir, les Bleus.
Allô.
Tout va bien. Général, quand il n'y a pas, c'est également positif.
Oui.
Tout va bien. Ils sont invincibles, les Bleus. Ils sont invincibles. Il ne peut rien leur arriver.
Salut William. Rien.
Bon, messieurs, bonsoir.
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 Alors, je voulais me plaindre d'une chose, c'est que vous avez une super analyse du match, mais sauf que j'ai, moi, remarqué que Paul Pogba était en dedans sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps.
Mm-hmm. Ouais. Que sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps ?
Ouais, j'ai trouvé très passif et très au ralenti dans sa façon de courir, dans son placement, et de la façon dans ses déplacements. J'ai trouvé très pauvre en action physique au niveau de ses déplacements. Et un 6 ou un, j'ai trouvé dans la 38 à la 45e minute, il n'a pas touché un ballon, il n'a pas taclé, il n'a aucune accélération. Et ça, comme il dit, je veux être un cadre de l'équipe de France. Je l'ai trouvé très 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 pauvre. Un homme comme lui, comme dans la prétention qu'il a dit, je dirais, quand on a le potentiel comme il a, la puissance physique, Marcel Desailly avait cette puissance comme lui, mais Marcel Desailly l'a fait. Mais lui, il le fait pas.
Ouais, enfin, techniquement, Pogba, c'est quand même autre chose. Hein, c'est d'autres possibilités. Mais non, mais attends, William, d'une façon plus générale.
Daniel et William vont
sur la première période. Tu as raison, mais il n'y a pas que Pogba. Toute l'équipe est en dessous sur la première période. Et d'ailleurs, bon, maintenant, on a entendu les premières réactions suite au match. Griezmann vient de le dire, et on a su qu'à la mi-temps, ça avait chauffé sévère et que Deschamps avait poussé une petite gueulante. Griezmann vient de le dire. C'est comment l'expression ? On s'est dit les choses, voilà, à la mi-temps. Et Griezmann dit, on s'est dit les choses tranquillement à la mi-temps. On a été champion du monde en faisant les efforts les uns pour les autres. Et c'est ce qu'on s'est remis à faire en seconde période. Donc en fait, ce que tu dis, c'est vrai, mais ça concerne pas que Pogba. Toute l'équipe n'a pas fait les efforts et n'était pas dans le combat. C'est ce qui est la qualité première de cette équipe-là. Des qualités qu'elle a retrouvées en seconde période et qui lui a permis d'inverser la tendance avec le brin de réussite qui la caractérise maintenant depuis de nombreux mois.
Voyons quand même sur Pogba, parce que t'es d'accord toi aussi William, avec William.
Tout à l'heure j'ai dit que Paul Pogba surfait sur le fait qu'il était champion du monde. J'ai bien aimé un peu l'analyse de William, mais quand il compare Paul avec Marcel, je dirais plutôt que Paul, pour moi, a un peu le même style de jeu qu'un... Patrick Vieira.
Oui.
Et je pense que oui, Paul pourrait faire beaucoup mieux, vu les qualités qu'il a. Il pourrait faire même, comme on dit en anglais, du box to box. Et malheureusement, ce soir, ça n'a pas été le cas.
Mais bon, l'équipe de France, il a pas trop le droit. Hein.
Mais bon, après, comme
il a une
comme...
box en priorité et la deuxième.
Comme Daniel a dit, il n'y a pas que lui qui n'a pas été.
Oui, en première période, il y en a un paquet.
À son niveau, je pense que ouais, il y a beaucoup de joueurs qui auraient dû mieux faire. Je pense que c'est l'équipe en général, voilà, qui n'a pas été au niveau. Et ça, c'est le problème de l'équipe de France. En ce moment, ça a été le même cas face à l'Islande, et il va falloir que voilà que les joueurs se disent les choses comme il faut pour entamer une meilleure première mi-temps pour le prochain match.
Et sur la seconde période, on a également vu à un moment Matuidi revenir serré au milieu, là où les Bleus étaient vraiment en difficulté parce que le milieu de terrain des Allemands avait pris dessus.
On a l'Orto, profitons-en. Joachim Löw arrive en conférence de presse. Traduction par l'Orto.
Vergangenen Samstag, weil eigentlich nur das Ergebnis jetzt nicht stimmt.
C'est pas seulement le résultat qui compte maintenant, c'est la performance qu'on a montrée ce soir.
Großartig, das muss man so sagen.
On a commencé très bien, il faut le dire. Par rapport à samedi,
schlecht waren innerhalb von zwei Tagen.
On a réussi en deux jours à changer les choses.
Leistungssteigerung, Mannschaft war sehr konsequent.
La performance a été bien au-dessus par rapport à samedi. On a montré de la constance.
Vorne gespielt und alle Körner hier irgendwie auch in diesen 90
On a trouvé des solutions vers l'avant.
Und wir waren auf jeden Fall auf Augenhöhe mit der wahrscheinlich
oder im Moment. C'est absolument sûr qu'on était les yeux dans les yeux avec les Bleus.
Und hätten eigentlich sogar in der ersten Halbzeit, weil die Franzosen auf uns eigentlich auch während des ganzen Spiels nie so richtig Zugriff hatten.
Et les Français nous ont pas beaucoup attaqué en première période. On aurait dû creuser un écart plus conséquent.
In der ersten Halbzeit nach dem 1-0 auch. Durch unsere Chancen, die wir rausgespielt haben, natürlich auch das 2-0.
On aurait dû profiter de nos occasions diverses pour arriver à 2-0.
Frankreich hat eine unglaubliche individuelle.
Mais l'équipe de France a une qualité individuelle incroyable.
Die eine oder andere Unaufmerksamkeit hat, dann
et si vous restez inattentif sur un tel ou un tel, vous pouvez être puni tout de suite.
2-1 und 11 Meter. War nicht berechtigt, das muss ich sagen.
Moi, je pense que le penalty final n'était pas justifié.
Mats berührt ihn überhaupt nicht.
Mats le gêne pas sur l'action. Mats Hummels.
Elfmeter gegeben. Also das war natürlich auch völlig unberechtigt.
Aber die je considère que c'est injustifié de donner penalty sur cette action.
Vor allen Dingen sehr, sehr mutig, dann auch immer wieder nach vorne gespielt.
Voilà. Bon, ben Joachim Löw, il est parfait. Hein. Il te fait une première réponse avec une analyse complète du match. Bravo. Rigueur allemande, précision. Traduction, je sais pas si c'est au niveau parce que comme on parle pas allemand, on sait pas si t'as bien traduit.
Ah, j'ai essayé de rien.
Mais on a tendance à faire confiance.
Il a pas dit. Est-ce qu'en revanche, il a pas glissé à un moment? Je commence un petit peu à en avoir marre de cette bande de jeunes.
Non, il a pas dit non.
mignons, mais qui sont quand même pas vraiment très efficace quand même. Il caresse bien, mais alors.
Non, mais il a reparlé.
Pour
de...
mettre au fond, on repassera.
Il a reparlé.
Il a pas
de
dit ça à un moment.
Il a reparlé de la Chancenverwertung, c'est-à-dire la capacité à concrétiser les occasions que tu te crées.
C'est ce que je viens de dire en d'autres mots.
Oui, mais lui, il a dit
Chancenverwertung.
Et il a pas dit qu'il serait temps que les Allemands retrouvent des vertus au niveau du remplissage du short.
Bah écoute, non.
Le problème, c'est que cette équipe est en perdition.
C'est au niveau du caractère et ce qui lui manque, c'est de concrétiser, parce que sur cette première période, ils doivent faire beaucoup mieux. En fait, c'est une équipe de petits garçons, mais c'est ça qu'on reproche globalement à cette équipe d'Allemagne depuis des années maintenant.
Oui, mais là, tu vas vite, parce que comme il l'a dit, en deux jours, tu passes de, t'avais des cadres installés, des trentenaires ou des presque trentenaires, t'en enlèves quatre ou cinq, tu mets des jeunes de 22, 23 ans. Mmh. Oui, non, mais d'accord. Mais tu passes d'une équipe de sénateurs à une équipe de petits jeunes, donc tu peux pas non plus. Ça peut pas exploser d'un coup et tu peux pas marquer 5 buts en une mi-temps non plus. Enfin, ça aurait été un peu miraculeux que d'un seul coup, l'Allemagne concrétise ses occasions. Surtout qu'il n'y avait pas d'attaquant dans cette équipe. Hein.
Mon petit Lorto, l'Allemagne devient le paillasson de la France.
Un peu,
alors, ouais. Messieurs, c'est la première fois de l'histoire de cette sélection qu'ils perdent 6 fois en une année. Donc, alors, c'est un chiffre parmi d'autres, mais ça n'est jamais arrivé.
C'est la première fois que c'est jamais arrivé à l'Allemagne.
Non, c'est pas une équipe qui a l'habitude.
Là, on en est à 5 matchs d'affilée face à la France sans qu'ils gagnent.
On a une équipe.
Ouais, bon, après, bon, enfin.
C'est un peu une équipe d'adolescents.
Le match du 13 novembre, excuse-moi.
Non, mais l'Orto, tu deviens la Géorgie, mon vieux. Méfie-toi.
Même Gibraltar, parce que Villas vient de tweeter à l'instant que Gibraltar avait gagné autant de matchs.
Oui, j'ai dit tout à l'heure, si t'écoutais.
Un peu à l'image de Leroy Sané, commence bien les actions. C'est...
Non, mais tu es
un peu éjaculateur précoce.
D'accord avec William, mais.
Un manque de caractère, je suis désolé. Moi,
oui, mais il faut laisser
aussi. J'ai connu une équipe allemande.
Ah, elle te pliait quand il fallait plier.
Voilà, c'était difficile de pouvoir gagner.
Oui, parce qu'ils se sont mis dans cette espèce de romantisme avec des jeunes qui taquinent le ballon, comme tu disais, Daniel, et il y en a encore d'autres en réserve sur le banc. Julian Brandt, là, il est rentré la 82e. On se demandait pourquoi il n'avait pas remplacé Keller.
Ouais, tu veux dire que l'ADN de l'Allemagne, c'est pas d'être taquineur, quoi.
Ben, à un moment,
c'est efficacité, organisation.
Mais la fessée, quoi.
Hein. Leuf a modifié ça. Bah oui, mais le problème, c'est qu'en 2008, souvenez-vous la finale contre l'Espagne à l'Euro 2008, tu te fais battre par un but de Fernando Torres qui a littéralement marché sur Philippe Lahm ce jour-là. Et l'Allemagne, à l'époque, était pas super, super belle à voir, quand même. Enfin, moi, je sais pas. Après, c'est un débat philosophique. C'est un certain amour du jeu ou un intérêt pour
quand
le jeu.
Comment tu dis?
En 2008, la finale de l'Euro.
Ouais. Bah, ils sont pourquoi tu dis les Allemands te plaisaient moins que
étaient... parce qu'à l'époque on n'avait pas connu autre chose.
Non, mais ils étaient dans le comment dire, en route vers la révolution Leuve à ce moment-là.
C'était tôt encore.
Ils étaient encore avec pas mal de joueurs de l'ancienne génération.
Voilà.
Ils étaient encore avec pas mal de joueurs de 2006. Mais
effectivement des Ballack, des Matthäus, des Berch Schneider,
des avait de la gueule.
Et puis aujourd'hui
je ne connais pas ton Allemagne de ton époque, William.
Bah non. Mais il n'y a pas que l'équipe allemande. Il n'y a pas que l'équipe allemande. Il y a beaucoup d'équipes nationaux qui, voilà, pour moi, qui n'ont pas d'hommes dans leur équipe.
Ah, quand même.
Ah oui.
Attends. Comme dirait Oliver Kahn.
Attention, on peut être pas loin d'un dérapage. Là, moi, tout à l'heure, j'essaye de contrôler à peu près. J'ai dit beaucoup de conneries. William, je peux peut-être l'emmener là vers
Daniel, le dérapage. Tu m'as provoqué tout à l'heure sur la
traduction.
Des joueurs qui ont du caractère.
Ouais, vas-y, continue. On va peut-être.
Non, mais l'Allemagne, mais qui d'autre à part l'Allemagne, tu te vois comme ça? Parce que regarde par exemple l'Angleterre, ce qu'ils ont fait. Regarde l'Angleterre hier face à l'Espagne.
Oui, les Anglais, ils ont gagné 3-0 face à l'Espagne.
3-2 finalement.
3-2.
Excusez-moi.
Ouais, mais il s'est barré à la mi-temps, il a dit ce propos.
Ils ont gagné 3-2, mais pour moi, voilà, ça manque de caractère. Même les Espagnols. Même les Espagnols, je trouve qu'ils n'ont pas, ces joueurs de caractère que moi j'ai connus à mon époque. Je ne vais pas devenir nostalgique, attention.
Alors, on va accueillir les gars. Loïc, juste pour rester sur l'Allemagne, après on reviendra sur l'équipe de France, vous en faites pas. Loïc, bonsoir.
Bonsoir à tous, salut
Loïc.
Bon, on chambre un peu sur l'Allemagne, parce que comme c'est un peu le concurrent, on va dire, historique de la France, mais est-ce que tu fais le même constat que l'Orto, là, ce soir?
Bah, c'est désastrant, c'est navrant, c'est impressionnant. Mmh. Enfin, on peut prendre tous les adjectifs qu'on veut, mais j'arrive pas à comprendre. En fait, on est dans une prolongation de la Coupe du Monde. C'est voilà, des matchs, on a la balle, on a des actions et on marque pas. Et c'est ça en fait qui est le plus frustrant. C'est ces actions là qui fait qu'on perd un match qu'on doit pas perdre en fait ce soir. Bon, alors, bien sûr, si on enlève toutes les fautes offertes aux Français, bon, bien sûr, parce que voilà, les pénalties offertes, les fautes sur Mbappé, parce que dès qu'on le touche, monsieur tombe par terre. Juste en exemple, la faute de Kerrer sur Mbappé, qui est absolument pas faute puisqu'il touche la balle.
Je suis d'accord. Voilà.
Mais, bref, des fautes parmi tant d'autres. On peut aussi parler pendant la Coupe du Monde des pénalties offertes, des coups francs, Griezmann, tout ça. Mais en fait,
sur l'Allemagne, là, fais pas ton.
Oui, on reste sur l'Allemagne. Je reviens sur l'Allemagne. Je comprends pas, parce qu'on a des joueurs de qualité. Aujourd'hui, on a des techniciens, on a certainement des joueurs trop jeunes qui n'arrivent pas peut-être à tenir la pression et à tenir un score. Mais aujourd'hui, avec des joueurs comme Timo Werner, parce qu'il faut le dire, Timo Werner, aujourd'hui, c'est un joueur qui a de la qualité, qui a de l'avenir. Comment on peut ne pas marquer avec des joueurs comme Timo Werner, des joueurs au milieu comme...
Bah, peut-être qu'il est un peu surcoté, ton Werner.
Au Real Madrid, qui a l'expérience de ces matchs-là.
Mais il joue la tête baissée.
Je comprends pas.
Mais il joue la tête baissée. Moi, je l'ai regardé jouer.
Oui,
il joue la tête baissée. À aucun moment, il lève la tête. À partir de là, il peut pas marquer. Je suis désolé.
C'est vrai que la qualité première de ces gars-là, enfin, on va pas tous les comparer. Ils ont pas tous le même profil, mais Werner va plus sur la vitesse que sur la technique. En
mais arrivé à un moment, je te dis, quand tu joues à
ça
quand
manque tu de QI football. Alors ce que ça a caractérisé les Allemands
peut-être,
pendant des années.
Peut-être.
Quand tu vois Leroy Sané, des fois tu te demandes où il le met son QI foot, quoi, tellement il prend les mauvaises décisions. Werner, comme dit William, c'est tête baissée.
Mais Sané, il faut qu'il joue, Daniel.
T'as Kimmich chez Kroos.
Petit à petit, tu es plus en jeu. Prends Ludovic Julie, par exemple.
S'il n'arrive pas à progresser. Déjà, moi, la première année avec Guardiola, j'adorais. Là, bon, il a un trou visiblement. Normalement, il a une capacité folle, ce joueur.
Ouais, mais c'est un manque de force de caractère.
Mais Sané aujourd'hui, techniquement, excusez-moi, mais techniquement, c'est meilleur qu'Mbappé.
Qui?
Et au niveau vitesse, c'est pareil.
Sané.
Non, il n'est pas exploité. Ce joueur n'est pas exploité.
Pourquoi il n'est pas exploité? Parce qu'il n'arrive pas à se mettre dans les bonnes conditions.
Attendez, en même temps, on ne le sélectionne pas pour la Coupe du Monde, donc c'est compliqué qu'il puisse jouer comme il faut.
Et pourquoi? Mais là, attends, il faut arrêter, c'est bon. Les joueurs, dès qu'on les fait pas jouer, ils commencent à pleurnicher. Ah, je suis pas bien, il faut que je joue un peu plus.
Ah oui? Attends. Ils pleurnichent? Deux petites secondes, hein, William, je veux pas être méchant. On prend la comparaison. Un joueur pas sélectionné en Allemagne, Sané, et un joueur pas sélectionné en France, Rabiot. Voilà. On regarde les différences.
Non, mais quand je dis pleurnicher, ça veut dire que si t'as pas été pris en sélection, quand tu reviens en sélection, tu dois être un tueur. Et pour moi, Leroy Sané n'a pas été un tueur. Et c'est là où tu dois être fort dans la tête. Et moi, je trouve qu'il y a des joueurs, il y a des jeunes joueurs, dès qu'on les fait pas jouer, ils boudent.
Mais on peut
au contraire. Attendez.
Tu peux même constater.
Vous êtes jeunes. Profitez de ces moments-là. Même si vous êtes sur le banc, regardez les joueurs qui jouent. Apprenez d'eux. Et quand on vous fait jouer, vous devez tout casser. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevé. Surtout à un poste où c'est encore plus compliqué quand t'es défenseur. Quand j'étais sur le banc, il y avait des joueurs comme Lulian Thuram, Marcel Desailly, Laurent Blanc. Mais quand j'étais sur le banc, je les regardais. Je regardais ces joueurs et j'essayais d'apprendre d'eux. Mais dès que je jouais, je me disais, voilà, il faut que je casse tout. Et je te dis, c'est comme ça que j'ai gagné ma place en équipe de France. Pour ma première sélection, je peux te dire, j'avais la pression sur les épaules, mais j'ai fait le match qu'il fallait. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait mes 84 sélections par rapport à ça. Et je trouve que maintenant, il y a des jeunes joueurs, dès qu'on les met sur le banc, voilà, on les voit plus. Et c'est là où je dis qu'il y a un manque de force de caractère et tout.
Et ce soir, sur le cas Sané, pour aller complètement dans ton sens, en première période, donc il a sa chance, il est titularisé. En deuxième mi-temps, tu peux apercevoir des attitudes de star, de vedette parfois. Il est touché, agressé un peu par un adversaire et il fait un peu sa danseuse, on va dire.
Un peu sa diva. Attends, à un moment, il perd un ballon en deuxième mi-temps. Il se retrouve par terre.
Oui, c'est à cette action-là.
Et là, au lieu de se relever et d'essayer de récupérer la balle, bah, il reste allongé. Je suis désolé, non, attendez.
Mais attends, William, pour aller plus loin, là, ça veut dire que c'est une question d'état d'esprit? Ou alors on l'aura pas mis dans le crâne, hein, ces jeunes joueurs?
T'en as quelques-uns qui sont comme ça, je dis. Ils sont pas tous comme ça. T'as certains joueurs, certains jeunes joueurs.
Prends un Lucas Hernandez, par exemple.
J'adore.
Ça correspond à ce que tu décris là.
Voilà.
C'est le mec, il est allé arracher sa place, quoi.
Il est parti. Il n'est pas parti en tant que titulaire, mais dès qu'on lui a donné la possibilité de jouer, il l'a saisi. C'est tout. Il faut prendre des joueurs comme exemple. Lui, Lucas Hernandez, pour moi, j'adore. Voilà, c'est un combattant, c'est un mec qui a envie de gagner tous les matchs, c'est un mec qui a envie de gagner des titres, et il est encore jeune.
C'est vrai. Bon, là, je pense qu'il est installé pour un petit moment, celui-là, d'ailleurs. Alors, évaluation. On va attaquer tout de suite, parce que Pierre est là avec nous au 32-16. On va parler des Bleus, bien sûr, dans cette évaluation. Et Pierre veut parler de Giroud. Salut, Pierre.
Salut.
Alors, on t'écoute sur Giroud. On démarrera notre évaluation avec toi et avec lui, donc.
OK. Ben, en fait, je voulais revenir. Là, il y avait une petite polémique qui était lancée par certains consultants sur RMC depuis quelques jours. Et moi, j'étais pas du tout d'accord. Alors c'est vrai que Giroud c'est pas un top attaquant.
Il y avait notamment le débat, est-ce qu'il faut mettre Mbappé en pointe, sous-entendu voilà. Sortir Giroud, quoi, en fait.
C'est ça. Donc alors moi ce que j'ai envie de dire c'est que ok, un jour il y aura un meilleur attaquant qui va sortir Giroud. Maintenant qu'on propose justement une solution en sortant Giroud, parce que si c'est pour mettre Mbappé en pointe, d'accord, mais si c'est pour mettre Thauvin sur le côté par exemple ou Dembélé, je suis désolé, à l'heure actuelle Thauvin et Dembélé ils sont moins bons que Giroud. Donc ça,
tu veux dire, il n'y a pas aujourd'hui un neuf pour prendre la place de Giroud.
Mais là, c'est pas forcément un neuf, parce que si on met Mbappé en neuf, ça veut dire qu'on va faire rentrer un autre sur le côté. Mais qui on va faire rentrer sur le côté? Je suis désolé, aujourd'hui, Dembélé, il n'est pas meilleur que Giroud par rapport à son apport pour l'équipe, etc. Et pareil pour Thauvin. On a vu le dernier match de Thauvin. Franchement, c'était assez catastrophique.
Donc toi, et là, puis, tu es d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure? Tu estimes qu'il a fait un bon match ce soir?
Mais bien sûr.
Mais bien sûr qu'il a fait un bon match. Déjà.
Bien sûr qu'il fait un bon match. En fait, il est incontestable. Ça aussi, ça fait partie des choses. Quand on disait tout à l'heure, à un moment, il faut s'incliner et arrêter de discuter de la façon de jouer, de la manière que les uns aiment ou que n'aiment pas. Ces débats, ils ont pris fin le jour où c'est qui le capitaine? Lloris a soulevé la Coupe du Monde. Voilà. Cette équipe, ouais, elle est forte comme ça.
Regarde, on a les stats de Giroud là devant les yeux.
Elle se retrouve comme ça.
On va te dire, ouais, mais pour un neuf, un tir, ça suffit
mais
pas.
Mais on s'en fout, c'est pas un vrai neuf. Il joue pas comme un neuf. Il est pas là pour
attends,
ça.
S'il te plaît, Daniel.
Il joue comme un,
s'il
joue comme un 6. Il est là pour défendre, pour peser sur la charnière centrale. L'enlever et mettre un autre joueur, ça veut dire que toute l'animation doit être repensée. Moi, je veux bien en débattre des heures, mais ça ne sert à rien. À rien du tout. Téléphoner à Deschamps et aller parler avec lui, mais pas avec nous.
Non, mais là, de toute façon, je crois que Pierre est d'accord.
Attends, Gilbert.
Vas-y, vas-y,
Deschamps, bien. Aujourd'hui, il veut que ses attaquants défendent, d'accord?
Oui.
Donc, Giroud, quel meilleur attaquant que Giroud pour défendre? Franchement, on n'a pas de meilleur attaquant que Giroud pour défendre.
Non.
Ensuite, on a un déficit dans le jeu aérien, défensivement, sur chaque coup de pied arrêté, on est en danger. Souvent, c'est Giroud qui dégage le ballon.
Exactement.
Très, très souvent.
Oui.
Il apporte énormément pour ça.
Oui.
Donc ensuite, aujourd'hui, regardez le
nombre. L'autre jour, j'ai expliqué ça à du gars, il m'a dit, tous les neuf viennent défendre au premier poteau sur les coups de pied arrêtés, c'est pas nouveau, c'est pas Giroud qui a arrêté ça.
En fait, il est essentiel.
Mbappé, il fait un ballon de la tête en défense. Mbappé, il fait jamais une défense de la tête.
Bien sûr. L'équipe, elle a été construite avec lui, quoi. Voilà.
Alors, attends, j'aimerais que William donne son point de vue quand même, après on continuera avec toi. Sur Giroud, William, est-ce que t'es d'accord?
Je suis d'accord avec Pierre. Je suis d'accord avec lui, parce que si tu mets, Kylian, dans l'axe, en tant qu'avant-centre, tu mets qui sur le côté? Si les joueurs que tu mets comme Dembélé, comme Thauvin, ne te donnent pas satisfaction. Et c'est là.
Dembélé.
Mais
Dembélé, quand il arrive en équipe de France, il se transforme, on dirait, puis trois pas.
C'est là où je te dis qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas à saisir leur chance au moment voulu. Que ce soit Thauvin, que ce soit Dembélé, ils saisissent pas leur chance.
Mais surtout, ils ont pas du tout le même style.
C'est pour ça que Dembélé, qui a joué le premier match à la Coupe du Monde, n'a pas fait une très bonne prestation. Et c'est pour ça que tu l'as pas revu dans le deuxième match. Imagine-toi qu'il aurait fait une très bonne prestation pour le premier match.
Tu veux dire que peut-être Giroud aurait pu jouer derrière? Et que peut-être se serait retrouvé en pointe?
Ouais, je pense que oui. Si Dembélé avait fait une très bonne prestation pour son premier match à la Coupe du Monde, je pense que Kylian aurait été l'avant-centre et Dembélé sur le côté. Mais ça n'a pas été le cas.
William,
aujourd'hui, on est tous d'accord que Giroud, c'est le numéro 9 de l'équipe de France parce qu'il
très bon
joue
match,
avec ses atouts.
Mais pour faire un très bon match, il aurait fallu qu'il fasse un match qui corresponde aux attentes de Deschamps. Or, Dembélé, aujourd'hui... On peut penser ce qu'on veut de ce joueur. Moi, je l'aime bien. Il a beaucoup de potentiel. Il a le temps devant lui. Il peut corriger des choses. À la limite, peu importe, on s'en fout. Mais je ne crois pas qu'en fait, ses qualités correspondent à ce que Deschamps aime et veut. C'est une limite. C'est que il veut un fantaisiste. Et ce fantaisiste, ce sera Mbappé. Voilà. Il voit ça comme ça. Essayer d'envisager comment Dembélé pourrait jouer, même s'il était fort. Mais fort, ça veut dire qu'en même temps, il va défendre énormément, parce qu'il pourrait pas être deux à moyennement défendre. Il faudrait qu'il fasse le travail que fait Giroud, qui est super important et utile. Moi, je vois pas. Moi, je le vois pas autre qu'un joker, si t'es mené, à genre un quart d'heure, 10 minutes de la fin pour
rentrer.
Voilà. Mais ça va être ça. Sinon, là, comme par hasard, France-Allemagne. On va dire premier vrai gros match, parce que le premier Allemagne-France, c'était juste après les vacances, personne n'était vraiment prêt et tout. Là, j'estime que c'est le premier gros match depuis la Coupe du Monde. Équipe type. Umtiti pas là, t'as remplacé un poste pour poste. Et encore avec un mec qui... Tu vois, je sais pas, t'aurais pu trouver un autre genre de défenseur central. Par exemple, pendant longtemps,
top
les gens
Daniel.
Ont dit... Attends,
Didier Deschamps en conférence de presse.
Je vais vous dire ça.
On y va.
J'aurais l'impression de me la raconter un peu. J'ai pris cette décision parce que voilà, on n'avait pas un bloc suffisamment compact et pour garder une plus grande liberté sur nos joueurs offensifs, notamment Kylian et Antoine, et pour éviter de se faire transpercer comme on l'a été dans la première demi-heure. Après, les systèmes, ils sont ce qu'ils sont, c'est ce qu'on y met aussi. Et quand on met ce qu'on a mis en deuxième mi-temps, évidemment, ça s'inverse, la tendance. L'Allemagne a beaucoup plus souffert et on a retrouvé ce qui fait notre force avec cette solidité, même si c'est Hugo qui nous maintient dans le match avec des arrêts décisifs en première mi-temps. Après, par la suite, oui, c'est plus conforme à ce qu'on est capable de faire dans un autre système, mais avec les joueurs que j'avais, je peux évoluer aussi, les faire évoluer différemment sans perdre pour autant nos qualités.
Voilà, il le dit, c'est la solidité, il l'a retrouvé en remettant Matuidi, ils étaient à 3 au milieu, ils ont d'abord bouclé ça, et voilà.
Allez, on va écouter cette deuxième réponse.
On sait bien que son système, il coulisse avec Matuidi.
Une force collective, voilà, qui se dégage. On a fait plutôt un bon début de match, tout début, et puis après, voilà, ça ronronnait un petit peu, il y avait des décalages, cette équipe allemande était... très intéressante, son système à trois défenseurs centraux nous a créé des difficultés aussi avec la vitesse qu'ils avaient devant, donc il faut s'adapter, c'est les forces de l'adversaire, et quand on voit qu'on n'est pas dans un bon soir comme c'était le cas, modifier, on peut changer les joueurs, on peut changer le système, mais ça lâche pas, il lâche rien, et ça c'est toujours quelque chose qu'il faut garder.
Voilà pour Didier Deschamps. Du coup, bon, Pierre, désolé, on n'a pas le temps de continuer sur Giroud. On va faire une pause et on revient pour continuer l'évaluation ensemble. Je rappelle que les Bleus ont battu l'Allemagne ce soir 2-1. La France en tête de sa poule de la Ligue des Nations qui plaît à William Gallas. 7 points pour les Bleus. Dernier match face aux Pays-Bas dans un mois. On continue notre analyse dans quelques instants avec vous au 32-16. Bien sûr, à tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Daniel Riolo, avec William Gallas, avec David Lorto, bien sûr. J'ai pas mal de messages pour William sur le hashtag RMC Live. Alors juste avant, j'ai SD79 qui lui dit le seul neuf qui défend mieux que Giroud, c'est Cavani, dit-il. Sinon, j'ai Jonah qui lui dit merci à William pour cette analyse. Donc, tout à l'heure, t'as sorti avec conviction sur les joueurs qui arrachent pas leur chance. Là, meilleure surprise du soir pour moi, William Gallas, bravo. Et puis, j'ai Jimbo qui me dit, d'ailleurs, je savais pas que Joe Star connaissait aussi bien le football.
C'est un rapport avec la voix ou...
Bah évidemment. Ouais. Pas avec les dents en or.
Tu veux que je dise quoi, ça?
Bon, mais c'est drôle. Alors, continuons l'évaluation, les gars. Oyas est avec nous. Il sort du Stade de France, Oyas. Bonsoir.
Salut, les amis. Comment ça va ce soir?
Ça va et toi?
Très bien.
Ouais, je me suis régalé, les mecs.
C'est vrai?
C'était génial. Je suis monté et puis je suis redescendu tout de suite après, tu vois. Je suis tellement pas monté haut que je suis redescendu tout de suite. C'était pas terrible, hein. C'était pas terrible ce soir.
Mm-hmm. Tous ceux qui appellent, ils sont pas contents. C'est bizarre, Gilbert.
Non, mais non. Je me suis fait chier, Daniel.
Daniel, il est malin quand même.
Eh, les amis.
Toi, c'est pas moi qui fais les appels, vous êtes marrant, arrêtez de dire ça. Les gens
en fait, il est content que les gens.
Mais pas les amis.
Arrêtez,
arrêtez de me prêter des mauvaises intentions.
Ah, parce que c'est pas une question d'intention.
Clairement, je.
Laissez parler, Oyas.
Les copains.
Vas-y.
Les copains, tu veux connaître les deux moments marquants de ma soirée?
Vas-y, c'est quoi?
Bon, déjà, je sors, je vais regarder le match, je mets un petit slip et tout, je me dis, allez, ça va être génial et tout. Donc, les deux moments géniaux, c'était quoi? La chanson de Bruno Mars. Et après, j'ai fait quoi? J'ai regardé la coupe à Florentin Pogba et je me suis dit, mais il a dû se faire chier. Comment je me fais chier actuellement devant le match?
Florentin Pogba?
Florentin Pogba.
Ah, il était là, Florentin Pogba.
Il a une sacrée coupe. Je me suis dit, il a dû se faire chier. C'est les deux moments où vraiment j'ai pris un peu de plaisir. Sinon, non, franchement, les gars, c'était insipide ce soir.
Bon, homme du match, c'était pour toi.
Ah, voyons, Grisou.
Ouais.
On est d'accord.
Grisou, je pense. Grisou. Je peux pas ne pas lui donner ce titre-là. Ce
Le problème avec Griezmann, c'est maintenant dès qu'il marque un but, j'ai l'impression de voir le ballon d'or dans ses yeux. Tu vois, c'est complètement obsédé par ça, le gars. Alors, je sais pas si c'est du coup nous qui sommes aussi.
Il est obsédé, mais ce soir, il est bon et il faut quand même reconnaître que Griezmann, en équipe de France.
Et la tête qu'il met, elle est magnifique, là.
La tête, elle est magnifique. Et, ce gars-là, dans les gros matchs, c'est un mec qui répond présent. Tu parlais de joueur de caractère. Griezmann est un sacré joueur de caractère. Ça, il faut bien le dire. et j'en reviens, excusez-moi encore là-dessus, mais il est quand il est entouré avec Jérôme Mbappé, ça colle bien, quoi. Ils ont réussi à créer quelque chose à eux trois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'animation. Il faut reconnaître que tous les trois, ils ont créé un truc, quoi.
Ouais, c'est pas mal, hein. Ce sont des décontractés.
Ouais, c'est vrai que quand il est sur le terrain, il est vraiment décontracté. Mais après, comme tu l'as dit, Daniel, c'est un joueur qui a du répondant, qui a du caractère. Son but de la tête, magnifique. C'est le petit toucher de balle, tu vois.
Il en avait déjà mis un comme ça avec l'Atlético.
Il effleure la balle et le ballon va là où elle devait aller. Rien à dire.
T'as un Casper, Olias ?
Mais attendez les gars, juste petite parenthèse, mais il ne mange toujours pas à la table de Messi et Ronaldo. Ça, je referme la parenthèse tout de suite. Hein. Il est très fort, vraiment très fort, mais il ne mange pas encore à cette table-là. Le Casper ?
Ouais, bah, en même temps, eux, ils ont une table en face à face depuis des années. Donc,
Ouais. Ils s'envoient des croutons de pain comme ça tous les deux. Franchement, je vais pas dire Casper, mais il y a un joueur qui me dérange, ou en tout cas qui me pose problème.
Si, il y en a quand même un Casper ce soir. Bah oui, Pavard, c'est un Casper. Le pauvre, là, ce soir, c'était compliqué.
Il a réussi à se prendre un petit pont sur une talonnade.
Il a pris des courants d'air, le pauvre. Mais d'ailleurs, si l'Allemagne n'a pas mené 2-0, c'est un miracle, et c'est aussi, ça passait tout le temps de ce côté.
Mais Daniel, tu dis ce soir, mais excuse-moi, c'est récurrent sur les derniers matchs.
Non, bien sûr, c'est récurrent. On en a parlé récemment.
Après, c'est un gars qui joue pas à ce poste-là tous les week-ends.
Tu
confirmes leur tour.
À partir du moment où il est là, le mec sur le terrain, t'as le droit quand même d'en choper une de temps en temps, quoi.
Ouais.
William, toi qui étais en défense, là, qu'est-ce que tu penses de
ça? T'est arrivé qu'on te décale à droite?
J'ai souvent
un
joué
paquet,
à droite,
un paquet de fois,
à droite,
même.
À gauche, dans la... Ah,
tu prenais des courants d'air comme ça?
Non, quand même pas, non. Non, non,
quand
non.
Même pas.
Non, mais bon. Comme vous l'avez dit, en championnat, il joue dans l'axe. Après, en équipe de France, il faut qu'il joue à droite. On sent que au niveau de son positionnement,
elle va tenir combien de temps, l'excuse?
Là, il est très très mal placé.
Ah bah, tu m'étonnes qu'il est mal placé.
Il est très mal placé, et c'est pour ça que ça a toujours, en première mi-temps, ça passait toujours sur son côté.
Bon, après, il est du côté où Mbappé forcément défend un peu moins bien. C'est le côté qui est un peu moins fourni au niveau
attends.
Même si Kanté, il va beaucoup par là.
Ouais, mais arrivé à un moment, pour moi, ce sont des excuses.
Bon, bah,
parce que quand tu joues à ce poste-là, le plus important, comme on l'a dit, il faut pas que ça parte dans ton dos. C'est-à-dire qu'il faut que tu anticipes la profondeur. Si tu anticipes la profondeur, les ballons, ils passeront jamais. Et malheureusement, ça a toujours été le cas en première mi-temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rectifie quelque chose. C'est pas parce que ton ailier ne vient pas défendre que ça doit toujours passer dans ton dos. Même s'il y a un 2-1, toi, le plus important, c'est que tu prennes le joueur qui part en profondeur. Et le joueur qui rentre avec le ballon, arrive à un moment, il va arriver sur ton milieu de terrain. C'est si simple que ça.
Bon, donc en fait, ce que tu nous décris, c'est qu'il est perdu, quoi.
Je sais pas si c'est simple, mais en tout cas, il le fait pas bien.
Bah, je peux te le dire que c'est simple parce que j'ai joué à son poste-là.
Mais c'est pour ça.
C'est vrai que toi, quand t'étais latéral et que t'étais baladé, c'était le débat, on avait toujours le débat, bon alors, c'est qui nos latéraux, tu vois?
Moi, je voulais jouer à un poste, mais on m'a toujours mis à droite, à gauche, dans l'axe. Arrive à un moment, voilà.
T'avais gueulé à un moment, je me souviens, t'avais dit.
William, il gueulait souvent dans
ce cas-là. Mais non, mais arrive à un moment.
Contre les journalistes et que je mets un petit doigt d'honneur.
Arrive à un moment, je gueulais. Tu sais pourquoi je gueulais? Parce que j'avais des ambitions. Je voulais être un des meilleurs défenseurs, que ce soit à droite, à gauche ou dans l'axe.
Mais tu voulais qu'on te stabilise, quoi.
Voilà. Je voulais que ça. Mais on m'a mis un peu partout et voilà. J'étais un joueur de caractère, mais j'ai toujours dit ce que je pensais, même avec les journalistes.
T'avais fait un doigt d'honneur aux journalistes, toi, je me souviens pas de ça.
T'as pas fait un truc comme ça, t'avais une petite histoire.
J'avais une petite histoire personnelle.
Ah, c'était perso.
C'était perso.
Ah si, c'était perso, alors c'était ça passe.
Ça passe.
Bon, revenons à Oyas.
Et puis t'as du bol, le doigt d'honneur, c'est redevenu vachement à la mode, là.
Le truc avec Pavard, moi j'ai l'impression aussi, j'ai l'impression qu'avec ce joueur, on est dans l'émotion. C'est-à-dire depuis le but...
Tu veux dire, il croque encore sur le but contre l'Argentine?
Mais il va croquer toute sa vie là-dessus.
Mais oui, mais bien sûr, avec ce joueur, on est dans l'émotion. Toi, Pavard, but de bâtard, hein, calmez-vous les gars, calmez-vous avec ça.
Ah là, il y a une autre chanson qui est sortie, hein. C'est Pavard, il est en retard, il marche comme un canard.
Ah, ouais, bon, c'est pas...
Moi, c'est moins bien, c'est moins bien pour lui.
Ouais, non, là, c'est pas...
Moi, nouvelle fois, je pense quand même qu'il a des circonstances atténuantes. Comme l'a dit William, il y a des soucis de placement et tout. Enfin voilà, ce type-là, il joue à un autre poste tout le reste du temps.
Ça peut pas tenir à partir du moment où t'es là tout le temps et quand on te voit, t'es pas bien. Ça veut dire que tu devrais pas être là.
Mais concrètement, les gars,
Sidibé qui devrait être là.
Mais il y a pas, en ce moment, il y a pas de solution de rechange. Il faut pas oublier qu'il est jeune quand même. Je pense que ce sera à lui quand je te dis qu'il est jeune, c'est-à-dire qu'il a une marge, il aura une marge de progression. Mais il va falloir qu'il travaille. Falloir qu'il travaille énormément, surtout que quand il va venir en équipe de France, pour être très très performant à ce poste d'arrière droit. Et pour ça, il va falloir qu'il travaille avant les matchs de compétition.
William, est-ce que tu as vu la prestation d'Hernandez sur l'autre côté? Franchement.
Ouais, mais c'est pas. Attends,
c'est à peu près le même âge.
Lucas Hernandez, il joue arrière gauche dans son club. C'est-à-dire que c'est plus facile. Et je peux te dire que c'est très très difficile que quand tu joues dans ton club dans l'axe, en tant que central, et en équipe de France, tu te retrouves arrière-droite, tu n'as pas le temps de pouvoir trouver tes repères. Et ce sera à lui de faire les efforts qu'il faut pour être performant à ce poste-là. Parce que malheureusement, s'il y a un jeune joueur qui joue arrière-droit et qui est très très bon, arrive un moment, malheureusement, Benjamin Pavard ira sur le banc.
Tiens, William, on va écouter Antoine Griezmann, il est dans la zone d'interview là, on peut écouter sa première réponse en direct.
On avait contre l'Islande, c'était pas nous. Le coach a parlé, quelques joueurs aussi, et après on a revu l'équipe qui a été championne du monde, qui travaille les uns pour les autres. Et chiante à jouer et c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on recherche, donc voilà, il y aura des matchs où ça sera pas ça, mais dans les moments difficiles il faut répondre présent et en deuxième mi-temps on l'a fait.
Allez, Antoine Griezmann, encore une réponse. On parle du renversement du match.
C'est tout
là.
Ça, c'est quand ça commence mal, le plus dur c'est de revenir au score et après de le gagner, et on l'a fait aujourd'hui. Donc voilà, après ça, avec le ballon, il n'y aura pas de souci, mais c'est dans les moments compliqués où on voit les grandes équipes.
Voilà pour Antoine Griezmann. Est-ce qu'il y a un joueur qu'on n'a pas cité dont vous voulez parler?
En tout cas, Griezmann.
Loris, bon match quand même, faut le préciser.
Loris, pas bon match. Mais sur Griezmann, juste un truc. Et Griezmann est totalement épanoui dans cette équipe. En fait, il adore ce que fait cette équipe. Et ça, c'est formidable. Pour
est-ce
un
que ça ressemble pas
bah oui, bien sûr.
C'est Atletico
mais,
style.
Mais bien sûr, il a. Mais donc, c'est sa vie finalement. Mmh. Et il adore ça. Et ça, je trouve que c'est assez à souligner. Il le dit dans toutes ses interviews. On est chiant à jouer. Ça le fait kiffer. C'est un peu de toute façon, il adore le style uruguayen.
C'est ce que je voulais te dire. C'est un truc sud-américain.
Oui, voilà. Il adore le style uruguayen. Si tu lui dis, tu préfères l'Uruguay au Brésil, lui préfère l'Uruguay. C'est un choix tout à fait respectable, quoi. Mais voilà, il est totalement épanoui dans ce truc-là, Griezmann. Et ça se voit, il est heureux, quoi. Et à chaque fois qu'il y a un gros match, il répond présent, le mec.
Présent.
Voilà. Dans quelques instants, je vais vous ressortir quelques stats très intéressantes liées aux performances de la France pendant la Coupe du Monde. Et vous allez voir que ça va rejoindre nos débats là, ce qu'on dit sur l'Atlético Style dans quelques minutes. Bougez pas, l'after revient dans quelques instants. Je rappelle le résultat. 2-1 pour la France face à l'Allemagne. Et puis avant minuit, on partira où? En Arabie Saoudite. Eh oui, ce soir il y avait Brésil-Argentine là-bas, 0 pour le Brésil. On saura tout ce match dans quelques minutes. À tout de suite dans l'after.
RMC Football Show. L'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là avec William Gallas ce soir, avec Daniel Riolo, avec David Lorto, toujours avec nous. Je voulais donc vous donner ces stats là que vous retrouvez sur rmcsport.fr. Il y a un dossier complet très bien fait. Alors figurez-vous que la France, c'est un rapport de la FIFA qui a compilé des statistiques intéressantes. La France à la Coupe du Monde.
Ah, je sens que tu vas être désobligeant là. Tu sais.
La France à la Coupe du Monde a moins eu le ballon que l'Arabie Saoudite. Assez étonnant quand même.
Avec plein d'équipes en fait.
Alors attendez, écoutez-moi ça. 48% de moyenne de possession de balles.
Bon, c'est pareil.
L'Espagne est la première. Ça veut dire c'est pas étonnant, 69%. Mais les Bleus sont 19e dans ce classement. Alors non, mais ça veut dire qu'il y a une vraie stratégie qu'on a déjà décryptée à plusieurs reprises, mais c'est quand même étonnant de te dire que t'es derrière le Japon, par exemple, derrière l'Arabie Saoudite et d'autres, et que t'es donc champion du monde avec ce style-là. Ensuite.
Oui, mais pardon, Gilbert, c'est un peu biaisé parce que tu disputes tous les matchs jusqu'à la finale. Tu rencontres la Belgique, tu rencontres la Croatie. Un pays comme le Japon n'a pas joué contre des équipes forcément ultra dominatrices. Aussi, tu vois,
c'est l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, ils ont fait deux matchs, ils se sont barrés. Hein.
Oui, bah voilà. Donc c'est pas forcément ultra représentatif. Ça veut bien dire quelque chose, je suis d'accord, mais bon, après, tout le monde n'a pas joué jusqu'à la finale. Quoi.
Ensuite, vous savez que les deux stats à la mode en ce moment dans le foot, c'est le nombre de kilomètres parcourus. Et le nombre de courses à haute intensité. Ça, c'est les deux stats que tous les entraîneurs regardent. D'ailleurs, Deschamps ne regarde que ça lui aussi. Et bien là, la France, Daniel, pour une fois, ça ne va pas dans le sens habituel. L'équipe de France n'a parcouru que 101 km par match en moyenne.
Ce qui est peu. Mais parce qu'elle joue pas.
Ce qui est peu. La Serbie, par exemple, 113. Et la France, à ce classement des kilomètres parcourus, est 28e sur 32.
Mais parce qu'elle
dernière.
Parce qu'elle fait peu de pressing, elle joue en position basse. Ouais. Elle a pas besoin de faire beaucoup de courses, finalement. C'est une stratégique et je sais pas combien de temps ça va pouvoir durer, mais c'est une anomalie dans le football moderne, cette équipe de France. C'est vrai, hein. Dans tout ce qu'elle montre.
Jusqu'à temps qu'un la tactique qu'il faut pour battre.
Parce que toutes les équipes qui jouent avec aussi peu de possession, je sais pas, par exemple, la possession n'est pas le souci de Klopp, c'est pas le souci
de
l'entraîneur. Mais il y a un gros pressing.
Ouais.
Il y a une vraie agressivité.
Oui, il y a l'intensité.
Mais la France le fait même pas, ça.
Alors si. Parce que concernant les courses à haute intensité,
ouais, non, mais elle va pas chercher haut, je veux dire.
Oui, concernant les courses à haute intensité, on est à 25 km/h par match en moyenne, et c'est plutôt dans la moyenne haute.
Ah bah voilà.
Sur les courses à haute intensité, uniquement.
Précis. Et c'est une des stats les plus importantes. Quand tu dis que j'aime les kilomètres parcourus, précise que il faut préciser que celle que je préfère encore plus, c'est courses à haute intensité. C'est celle-là décisive.
Avec des Mbappé, des gars comme ça.
C'est celle-là la décisive. Parce que pas besoin, ils le font même sur des courtes distances, surtout en étant en bloc bas. Ils courent pas sur de longues distances, mais hop, ça leur permet, en laissant venir, d'être très fort au pressing et dans le combat, et hop, d'exploser. Ouais. Mais c'est une vraie tactique, c'est un vrai choix, bien sûr.
William, t'es sensible à ça ou?
Pas du tout.
Bah, ça décrit le style de l'équipe de France, William, quand même.
Je suis d'accord avec toi, mais bon. Tout ce qui est statistique, tout ça, pour moi, le plus.
Ça dépend lesquels.
Après, ce qu'on te demande, c'est de gagner tes matchs. On est d'accord. Là, l'équipe de France.
Eux, ils les analysent pour savoir comment ils les gagnent. Si toi, t'es entraîneur demain, tu vas analyser des stats, t'es obligé. Hein.
Toi, t'allais par exemple.
Je suis entraîneur, oui, mais je pense pas que je serai entraîneur.
Toi, t'allais pas voir après tes matchs, par exemple, je sais pas, j'ai fait tant de fautes, j'ai raté tant de passes et tout.
Non, je le savais. Je le savais.
Tu savais avant de voir les stats.
Ouais. Je savais combien de fautes j'avais fait, combien de mauvaises passes j'avais pu faire. J'avais pas besoin qu'on me le dise.
Parfait.
Mais bon, comme Daniel l'a dit, par rapport aux statistiques de l'équipe de France, voilà, c'est un système de jeu. C'est un système de jeu. Et là, il va falloir attendre que un entraîneur arrive avec un autre système pour pouvoir battre l'équipe de France. C'est tout. Mais après, tu sais, quand on regarde le match, par exemple, face à l'Islande, où l'équipe de France est menée 2-0, c'est qu'arrive un moment, l'Islande n'a pas fait ce qu'il fallait pour garder ce score.
Ah bah oui, il y a quelques jours en effet.
Les Allemands mènent 1-0, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour gagner ce score ou pour mettre ce deuxième but.
Tant pis pour eux.
Tant pis pour eux.
On va conclure là sur l'équipe de France les gars, et tiens, pour conclure l'after, on va partir loin. Un match amical ce soir organisé à Jeddah en Arabie Saoudite, Brésil-Argentine, belle affiche, même si côté argentin il n'y avait pas toutes les stars, enfin Neymar par exemple a joué pour le Brésil. Le Brésil a gagné d'ailleurs 1-0. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, comme en Iran d'ailleurs encore aujourd'hui, pendant très longtemps les femmes ont été interdites de stade. Et l'Arabie Saoudite s'ouvre et a changé cette règle. Désormais, les femmes peuvent aller au stade et on a la chance d'avoir l'une d'entre elles qui est française et qui était à Brésil-Argentine ce soir, une sorte d'envoyé spécial de l'after, en quelque sorte. Audrey est avec nous. Bonsoir Audrey.
Bonsoir.
Alors, avant qu'on parle du match, Audrey, c'est un vrai événement, c'est le fait que les femmes puissent enfin aller au stade en Arabie Saoudite.
Oui, ça fait à peu près un an maintenant. Ouais, un peu moins d'un an. Que les femmes peuvent aller au stade.
Et donc tu y vas, mais pour voir quoi?
Juste avant, pour les matchs du championnat saoudien, non, mais Brésil-Argentine, quand même. Voilà.
Sinon, tu ne rates pas un match de ton équipe de l'OL à la télé, j'imagine.
Il fallait choisir ce soir entre l'équipe de France à la télé ou Brésil-Argentine. Alors, on a fait des footix de service ce soir. On est parti voir Brésil-Argentine.
Bon, alors, c'était comment, raconte.
Et l'ambiance.
C'est bizarre parce que bon, le match en lui-même n'était pas terrible. Alors pour les Français qui n'arrêtent pas de se plaindre, hein, vous avez de la chance quand même d'aller au Stade de France voir l'équipe. Non, c'est bizarre parce que d'être dans un stade où là pour le coup il n'y a que des footix. Hein. Ils sont soit pour l'Argentine, soit pour le Brésil. Mais il n'y a pas vraiment d'ambiance. On voit qu'ils ne sont pas tellement habitués. Enfin, aucune des deux équipes joue face à son vrai public, en fait. Donc, c'est drôle.
Ouais, c'est des matchs un peu business montés par des agences qui se payent sur les droits télé.
Ouais, donc il n'y avait pas tellement d'ambiance.
Et Neymar, Audrey, il était comment?
Très, très chaud, vous êtes 35 degrés. C'était le chouchou, clairement, du public. Il nous a fait quelques plongeons, il a fait de beaux coups francs, il a fait de belles accélérations au début. Il jouait très doucement, il faisait 35 degrés, une humidité terrible, vous voyez qu'ils étaient tous au ralenti. En soi, c'était pas un grand match, mais je sais pas, le Brésil, c'est bizarre, il n'y a que des bons joueurs, ça joue doucement. Il y a que lui qui s'accélère. Il y avait le petit Arthur là, au milieu du terrain là, qui n'était pas trop mauvais. Mais voilà, c'était... Je sais pas, quand il n'y a pas un grand match, entre guillemets, c'est quand même un événement ici. C'est quand même de se dire...
Brésil-Argentine, je pense que...
Ça fait 10 ans que je suis dans ce pays. C'était impossible à voir. On voit des femmes dans le public... même on va enlever la baïa à un moment donné parce que c'est trop tellement chaud. Personne n'a rien dit, mais bon, voilà, ça fait plaisir de voir tous ces gens qui sont en train de vivre quelque chose de nouveau, et le foot ça apporte ça. C'est quand même beau. On a vraiment fait les groupies d'abord et les footix, parce qu'on est quand même carrément allé à l'hôtel pour aller les voir, finir les maillots et tout. Donc voilà. Non, c'était ce qu'on ferait pas quand on est en France, pour nous, même français, on n'a pas l'occasion de vivre de moments comme ça ici. Alors, donc on a profité de tous les moments et c'était une super soirée, malgré que le match n'était pas génial. Comme quoi, on est trop gâtés en France. Hein.
Peut-être. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage. T'as bien kiffé le Brésil-Argentine, même si on l'a entendu, c'était pas génial. C'est Miranda qui a marqué le but de la victoire du
93e,
du Brésil dans le temps additionnel. C'est fini pour ce soir, messieurs. William, merci.
À demain, les amis.
Merci. Reviens quand tu veux. T'es bienvenu dans l'after.
Avec moi, je viendrai.
Ça roule. Demain, on est là à 22h dans l'after, bien sûr, pour revenir sur tous ces matchs et sur l'actu du foot. Tiens, demain, on reçoit notamment Daniel, les auteurs du fameux bouquin sorti récemment, sur qui compile toutes les affaires les paras du foot. Ils seront là demain soir avec nous dans l'after. Bonne nuit à tous et à demain 22h.
Les paras du foot,
RMC Football Show, l'after foot.